Monsieur Abel Yungel, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Depuis l'adoption et la promulgation de la loi autorisant la crypto-monnaie et le bitcoin en République centrafricaine, on assiste à une panique au niveau de la banque. Comment on peut expliquer votre position par rapport à cette incompréhension des Centrafricains aujourd'hui?
Comme vous savez, toute nouveauté dans un monde peut toujours apporter des frustrations dans les différentes couches sociales. Mais avant d'être frustré d'une situation quelconque, il faut chercher à savoir l'évolution et les avantages et les inconvénients. Je vais dire, par exemple, nous sommes entrés dans un monde de numérique. Aujourd'hui, tout est numérisé. Vous allez voir qu'avec le temps, il arrivera un jour où si je veux aller dans un pays étranger, je n'aurai plus besoin de passeport. J'arrive dans un aéroport, je donne juste mon nom, on m'identifie ou on me filme. On sait que cette personne a eu son visa, cette personne a fait les différentes formalités de son voyage, etc. Et tout. Donc, le monde numérique nous oblige aussi à entrer dans une économie numérique, que ce soit dans les différents domaines de la construction, du commerce, des finances, etc. Et tout. Maintenant, ce qu'il faut comprendre de la crypto-monnaie, la crypto-monnaie n'est pas née d'aujourd'hui. C'est depuis 1968 quand M. Charles Moreau a inventé le langage informatique. Arrivé en 1990, il y a encore un certain David Chaume qui a réfléchi et a créé la première monnaie numérique qu'on appelle le DigiCash. Et en 1991, DigiCash avait fait faillite parce que le monde ne connaissait pas l'importance de DigiCash ou de la monnaie numérique à cette époque. Et c'est comme ça qu'en 1991, Satoshi Nakamoto, hein, ce fameux inconnu, a réfléchi et a repris le travail de David Moreau pour essayer de retravailler et sortir la crypto-monnaie qu'on appelle le Bitcoin.
Oui, le vrai problème aujourd'hui, c'est que au niveau des banques, par exemple, parce que la banque vend de l'argent, vous convenez avec moi. Maintenant, ces banques-là, lorsqu'elles ne sont pas en mesure de contrôler les transactions financières, est-ce que le pays ne court-il pas le risque de blanchiment d'argent, le risque de financement du terrorisme et aussi les inconvénients qui vont avec en cas de perte?
Mais vous savez, ce monde aussi, nous vivons dans un monde d'intérêt. Aujourd'hui, si les banques ne sont pas d'accord avec l'utilisation de la crypto-monnaie, c'est normal, parce que ça fait leur perte, ça fait une perte pour les banques. Mais le problème, est-ce que c'est l'avantage des banques ou bien c'est l'avantage de nous, consommateurs, vous et moi? Je vous donne un exemple. J'ai commandé mes ouvrages et je devais envoyer l'argent à mon éditeur. Je suis passé par la banque, une banque de la place, et pour transférer l'argent, il m'a fallu attendre 12 jours pour que mon éditeur reçoive l'argent. Vous comprenez? Je peux vous donner plusieurs exemples, mais seulement, sachez qu'avec la crypto-monnaie, l'avantage, c'est pour le consommateur. Vous êtes à l'autre bout du monde, aux États-Unis, au Japon, n'importe où. Je suis ici, vous devant votre ordinateur, moi devant mon ordinateur, ou vous avec votre téléphone Android, moi avec mon téléphone Android. On peut faire des échanges, je fais des achats, et vous recevez instantanément l'achat que je fais avec le Bitcoin. Et moi aussi, je reçois la réponse que j'attends de vous.
Mais est-ce que le Bitcoin finance le développement d'un pays? Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, pour une entreprise, elle peut contracter des prêts auprès d'une banque primaire ou secondaire pour financer le fonctionnement d'une entreprise. Qu'en sera-t-il pour le Bitcoin?
Laissez-moi vous dire que le fameux Bill Gates, il est devenu très riche grâce au Bitcoin. C'est les premiers à utiliser les Bitcoins pour se développer, et aujourd'hui, ils ont des grandes entreprises. Imaginez si, dans notre pays, il y a des gens qui utilisent le Bitcoin, parce que le Bitcoin, non seulement ça résout les problèmes du marché, non seulement ça facilite les transactions, mais aussi le Bitcoin peut rendre riche. J'ai mon argent, je peux acheter 1000 Bitcoins à un moment où le Bitcoin coûte, par exemple, 30 000 dollars, j'épargne, et après, le jour où Bitcoin va passer à 48 000 ou à 40 000 dollars, ben je revends mon Bitcoin, je rachète du cash avec. Donc, le Bitcoin ne peut pas nuire à l'économie d'un pays. Certes, pour toute monnaie, il y a les avantages, il y a les inconvénients. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les billets fiduciaires que nous utilisons. hein, depuis que la Centrafrique a connu son indépendance. On a utilisé le billet fiduciaire, le franc CFA. Est-ce que ça a changé le quotidien d'un Centrafricain? Est-ce que ça a changé le pays? On est toujours dans la même situation. Et au pire encore, je vais vous dire, un grand pays comme la République Centrafricaine, pour tous ceux qui disent Bitcoin n'avantage pas, Bitcoin ne fait rien, mais on a toujours utilisé le billet fiduciaire. On a combien de préfectures dans ce pays? Il y a au moins 16 préfectures. Aujourd'hui, on va parler de 16 X préfectures, mais il y a combien de banques? Le pays est moins bancarisé. Et quand vous prenez l'Afrique en général, vous allez trouver qu'au moins 20% de personnes sont bancarisées. Mais les 80% de la population africaine n'est pas bancarisée. Mais pourquoi?
C'est vrai que le pays n'est pas suffisamment bancarisé, mais aujourd'hui, le pays aussi, en termes de couverture numérique, il se pose un problème aujourd'hui à l'intérieur du pays. Au moins 60 à 110% de la population n'utilise pas de téléphone 3G, les smartphones et autres.
Ben, je vais vous dire, ce n'est pas tout le monde qui doit utiliser le Bitcoin. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que l'adoption du Bitcoin par l'État centrafricain n'est qu'une alternative au franc CFA.
Justement, mais donc, l'article 10 de la loi adoptée par les députés et promulguée fait obligation aux agents économiques de faire leur achat avec Bitcoin lorsque une partie contactante se trouve être dans le besoin d'utiliser le Bitcoin.
Oui, justement, parce que quand je fais un achat chez vous, en Bitcoin, j'échange des Bitcoins avec vous et chacun de nous peut reconvertir ces Bitcoins en monnaie, en devise qu'il souhaite. Donc, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de compte Bitcoin, est-ce qu'il a besoin d'acheter en ligne ou sur le marché un produit en Bitcoin? Non, il n'en a pas besoin.
Vous conviendrez avec moi que le facteur risque zéro n'existe pas dans cette affaire de Bitcoin. Alors, quelle est la garantie en termes judiciaires? Par exemple, si je me trouve aujourd'hui spolié et que je dois poursuivre, il n'y a pas de garantie à ce niveau. Est-ce que ne pensez-vous pas que ça, là, ça ne met pas beaucoup plus d'avantages pour le côté de ceux qui arriment le Bitcoin en or et autres et qui tirent les avantages?
Je vais vous donner un simple exemple dans l'utilisation, par exemple, d'Orange Money. Vous utilisez Orange Money ou Patapay, etc. Et vous avez votre téléphone Android avec votre code, hein, de déverrouillage sur votre téléphone et avec le code qui vous permet d'avoir accès à votre portefeuille Orange Money. Si vous ne donnez pas vos codes à quelqu'un, quelqu'un ne peut pas tenter de prendre votre argent dans votre téléphone. C'est pareil avec le Bitcoin.
J'espère que vous ne sous-estimez pas aujourd'hui l'intelligence des hackers qui sont très avancés dans ce domaine.
Je vous le dis, ils sont très avancés, mais de l'autre côté aussi, des blockchains, ils sont aussi avancés dans ce système. La blockchain sécurise les transactions jusqu'à la destination de celui qui doit recevoir le transfert. Okay. Donc, vous comprenez que c'est un système qui est assez sécurisé. Il y a eu 99% de transpiration pour que les gens arrivent à ce résultat et on ne peut pas minimiser la sécurité de Bitcoin qui est derrière une cryptographie. C'est en fait la technique qui est adoptée pour sécuriser les échanges en Bitcoin.
Monsieur Abel Yongel, je vous remercie.
Je vous remercie, monsieur le journaliste.